conscience, je vais vous parler d'un point d'aller au-delà de la bénédiction. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut multiplier ce que Dieu nous confie afin de recevoir plus? Parce que Dieu est le Dieu de la récompense. Tout à l'heure, je vous ai lu 2-3 versets, mais il y en a beaucoup plus qui nous parlent clairement de récompense. Dieu est le Dieu de la récompense, alors que nous, on a pensé pendant longtemps que Dieu était le Dieu du jugement. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et oui, on aura des comptes à rendre, mais Jésus dit clairement aussi, l'apôtre Paul le dit, que nous ne sommes pas réservés pour le jugement ou pour la condamnation, parce que Jésus n'était pas venu pour perdre les hommes, il est venu pour les sauver. Il n'est pas venu pour les condamner. Et à cause de ça, oui, on aura des comptes à rendre. Et on va voir ça tout à l'heure. Mais ce matin, ce qu'on fait en partant, vous me faites confiance, je n'irai pas vous voler quoi que ce soit, fermez vos yeux. Je ne bouge pas d'ici, ce n'est pas un mauvais tour. Fermez juste vos yeux, je vais vous inviter à rêver un peu. OK? Fermez vos yeux un instant. Faites une pause pour imaginer de la manière aussi détaillée possible. Essayez même de vivre le sentiment que vous viviez, que vous vivriez, que vous ressentiriez si vous aviez aucune pression financière. Imaginez qu'il vous reste toujours de l'argent à la fin du mois, plutôt qu'il y a trop de mois à la fin de votre argent. Imaginez une vie où vous avez oublié ce que c'est d'être préoccupé ou stressé par vos finances. Imaginez que vous avez oublié ce que c'est le stress des finances à cause de votre situation bénie. Imaginez une vie où votre première pensée serait « Seigneur, conduis-moi ». Dans mes achats, plutôt que de dire, est-ce que j'ai les moyens d'acheter? Ou Seigneur, s'il te plaît, pourvois pour que je puisse rencontrer ce besoin-là. Une vie de paix quotidienne, vous posez la tête sur votre oreiller avec une âme satisfaite et vous dormez comme un bébé. Une vie où vous priez régulièrement pour connaître les priorités de Dieu par rapport à vos dépenses, vos investissements, et vous ne vous disputez jamais pour des raisons financières. Imaginez une vie dans laquelle vous pourrez bénir les autres selon ce que l'Esprit va vous diriger. Une vie pleine d'énergie et d'épanouissement parce que vous investissez de manière constante dans les personnes, dans les causes qui comptent le plus pour vous. Une vie où vous savez ce que c'est d'avoir l'assurance d'accomplir les paroles de Jésus en vous amassant un trésor dans le ciel. Qui rêve d'une vie semblable, hein? Wow! La merveilleuse nouvelle ce matin, vous pouvez ouvrir vos yeux, je ne vais pas vous endormir. Maintenant, vous pouvez vous réveiller, donner un coup à votre voisin s'il semble inerte. La merveilleuse nouvelle, c'est que la véritable vie bénie là, que vous avez imaginée, elle est accessible pour tous. Quelle que soit votre tranche de revenu, votre statut social. Vous pouvez avoir cette vie. Tout le monde le peut. Il y a une chose qui est nécessaire, c'est premièrement de vivre constamment selon nos moyens et aussi de régler le litige que nous avons constamment avec Dieu sur notre droit de propriété. Je vais l'éclaircir tout à l'heure, vous allez comprendre. Bien sûr, ce n'est pas parce que ça semble simple, comme je viens de vous l'expliquer, que c'est nécessairement facile. Ce n'est pas parce que ça semble simple que ça va arriver automatiquement. Ça n'arrivera pas automatiquement. Mais quand on commence à vivre sagement pour vivre généreusement, notre vie n'est pas la seule à changer. Les jeunes yeux nous regardent et ils apprennent beaucoup plus de ce que nous faisons que de ce que nous disons. Vous voyez, l'un des buts de la vie, c'est d'établir un héritage, c'est de laisser un héritage. C'est notre but dans la vie. On veut que nos enfants soient en meilleure position qu'on l'a été, vice-versa. Et c'est le but d'un héritage de bâtir et de laisser quelque chose. Mais de voir nos enfants devenir des disciples de Jésus avisés, qui comprennent la joie de la générosité, ça, c'est la chose la plus gratifiante qu'on puisse vivre en tant que parent. Mais comment y arriver? C'est la question. Mais c'est une chose gratifiante. Et je me souviens d'avoir posé la question à un de mes fils, « Qu'est-ce qu'on a fait pour que tu sois un bon gestionnaire? » Maintenant qu'il est d'un âge mature, adulte, mature, établi et tout, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des choses qu'on a, qu'est-ce que tu retiens de ta vie avec nous, tes parents et tout. Et il a mentionné quelques points, mais il a dû réfléchir de dire, eh bien, je ne vous ai jamais vu ceci, je ne vous ai jamais... Et ce qu'il mentionnait, c'était le comportement, c'était ce que lui voyait et ce qu'on lui faisait vivre à travers nous, ce qu'on considérait nos priorités. Et c'est nos comportements qui lui ont enseigné, beaucoup plus que nos paroles. C'est ce que j'ai remarqué. Je ne vous ai jamais vu ceci, je vous ai vu cela, et ainsi de suite. Et là, c'est comme, ah, OK, oui, donc, les petits yeux sont sur vous, sont sur nous, sur chacun de nous. Et dans notre manière de grandir dans le Seigneur, on est en train d'investir, de léguer un héritage qui n'est pas monétaire, mais un héritage qui est vraiment puissant. Comment y arriver? Premièrement, ce fameux droit de propriété, je crois que c'est le nœud du problème, premièrement. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, ça nous dit, « Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. » Ouh, très intéressant. Je lisais ça cette semaine. Et puis, vous savez, pour jeter les bases d'une vie qui aura un impact, on a besoin d'approfondir le fondement même de notre compréhension de Dieu, de ses voies, de sa bonté. Ça signifie qu'il faut se pencher sur deux questions primordiales. Il y a deux questions qu'on a besoin d'être capable de répondre. Et la première, on la voit à travers ce texte-là, « À qui suis-je? » Ou en d'autres termes, « À qui est-ce que j'appartiens? » Et si vous êtes vraiment né nouveau, comme la parole de Dieu le dit, la réponse est facile, « J'appartiens à Dieu. » Bien sûr. Le texte le dit ici, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. » Dieu m'a acheté. J'ai cette liberté maintenant d'entrer dans sa présence, mais je suis sa propriété, je suis son fils. Et une fois qu'on a réglé le problème de notre appartenance à Dieu, on doit régler une autre question. Et c'est cette fameuse question de propriété. Dans notre cœur, dans notre esprit, c'est une chose de reconnaître qu'on appartient à Dieu. Mais la deuxième question, qu'en est-il de tous les biens matériels? À qui appartient ce monde et tout ce qu'il contient? Ou pour amener la question à un niveau plus personnel, à qui appartiennent mes biens? Qui est propriétaire de l'argent, de la maison, de la voiture, des meubles, de l'électronique, des vêtements, de tous les biens matériels que j'appelle couramment à moi? À qui appartiennent toutes ces choses-là? Il y a un litige à ce niveau-là, très souvent dans nos vies, et ce litige-là met constamment de la pression. Comme le litige d'un droit de propriété entre deux voisins, tant que le litige n'est pas réglé, les voisins sont constamment en tension l'un avec l'autre, en désaccord ou, comme on voit quelquefois, en chicane, comme on dit ici au Québec. Régler ce droit de propriété. Dans Psaume 25, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tous ceux qui l'habitent. Ouh, c'est assez clair, n'est-ce pas? C'est assez clair. Pourtant, Dieu lui-même, il est encore plus précis dans un autre passage de Psaume. Donc, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde et tous ceux qui l'habitent. Plus loin dans le Psaume 50 au verset 10, « Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. » Oh, wow, c'est assez impressionnant ce passage-là ici dans le psaume 50. Et avez-vous remarqué, il y a seulement Dieu qui peut dire, le monde et tout ce qu'il contient sont légalement à moi parce que je les ai créés. Personne d'autre. Si vous avez une bague en diamant ce matin, ça peut représenter votre richesse, ça peut représenter la générosité du donateur, ainsi de suite. Mais si vous avez une bague en diamant ce matin, bien, le diamant provient du charbon, du charbon de Dieu, premièrement, qui a été formé sous une énorme pression au cœur de la terre de Dieu. Si vous portez des perles, elles proviennent des huîtres de Dieu. Le papier monnaie que vous avez dans vos poches, les billets de banque que vous avez dans vos poches, proviennent d'un arbre de Dieu. Le métal pour construire la voiture que vous conduisez. Le bois, la pierre qui forment votre maison appartiennent à Dieu. Il n'y a rien dans notre vie qui ne vienne pas de la création de Dieu. On parlait tantôt de ce conflit de propriété qui est réellement un problème, qui apporte une tension dans notre vie. Peut-être même tu es en train de vivre ce stress-là, de dire « Oh non, Gaétan va parler d'argent encore un matin. » On se calme, parce que peut-être la tension vient de cette situation-là. Tu crois que tout appartient, et que là, moi, j'essaie de te dire « Donne-moi en plus. » Ça, ça crée une tension. Effectivement. Mais ce matin, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Je ne suis pas le shérif de Nottingham, puis je ne suis pas Robin des Bois non plus. Je ne suis pas là pour faire la loi. Je suis là juste pour présenter les choses le plus clair possible pour que nous puissions être dans la meilleure relation avec Dieu et bénéficier de sa bénédiction. C'est tout. Donc, tout appartient à Dieu, mais la bonne nouvelle, Dieu n'est pas avare. Ça, c'est la meilleure nouvelle. Au contraire, il est extrêmement généreux. Et c'est sa plus grande joie d'accorder des dons puis de bénir. Ça, c'est sa nature. Dieu est généreux. Dieu a tellement aimé qu'il l'a donné. C'est clair. Et il y a une chose, je crois que une des choses qu'on apprend très tôt dans la vie, c'est celle de dire « à moi ». C'est à moi. Les jeunes enfants apprennent ça rapidement. On essaie, nous, de leur enseigner la générosité ou le partage, mais une des premières choses que les enfants apprennent à dire, c'est à moi. Et c'est vraiment particulier, parce que la question, je dirais, la plus fondamentale pour chaque croyant ou chacun de nous qu'on doit répondre, c'est à qui la déclaration « c'est à moi » s'applique-t-elle? À nous ou à Dieu? Parce qu'elle ne peut pas s'appliquer pour les deux. Cette déclaration-là, c'est à moi à qui ça s'applique plus justement à Dieu. Elle ne peut pas être valable dans les deux sens. Alors, si on revient à la première question qu'on avait posée tout à l'heure, à qui est-ce que j'appartiens? Cette première question, si on y répond et on va au fond des choses, ça nous aide à comprendre la deuxième question. À qui appartient tout ce que j'ai? Parce que si j'appartiens à Dieu, il ne faut aucun doute que tout ce que je possède, finalement, c'est sien. Ça lui appartient. La logique est incontournable. Si Dieu me possède, alors je ne me possède pas. Et ça, on a de la difficulté. Surtout si on a perdu de vue la perspective de l'éternité. Une petite parenthèse que je fais. Si vous croyez que tout ce qui compte pour vous, ou plutôt ce qui est le plus important, ce qui est évident devant vous, c'est uniquement votre vie sur terre, bien effectivement, vous ne penserez pas en termes d'éternité. Vous ne penserez pas en termes de royaume de Dieu. Ce sera difficile. Vous allez penser en termes plutôt de « qu'est-ce que je vais faire pour mieux m'établir, pour développer, pour plus et plus et plus » et non de dire « hey, je vais investir dans le royaume de Dieu, je vais investir un trésor dans le ciel » comme Jésus l'a dit. Si on revient maintenant, en d'autres mots, Paul dit qu'on ne s'appartient pas soi-même, on a été racheté à un grand prix. En d'autres mots, Paul est en train de nous dire qu'on devrait considérer notre corps même comme un prêt de Dieu. Je trouve ça intéressant. C'est à vous d'y vivre comme gardien pendant votre vie. Mais c'est la maison de Dieu que votre esprit occupe. J'ai trouvé ça intéressant parce que si on va jusqu'au bout de cette réflexion-là, on peut dire, Seigneur, le corps que tu m'as prêté, j'ai fait attention, mais regarde ici, il y a une partie qui grince. Pourrais-tu, parce que Dieu est un bon propriétaire, vous savez, il est généreux. Seigneur, peux-tu venir réparer le corps que tu m'as prêté? Il y a un petit grincement ici, il y a un petit truc là. Et de pouvoir parler à Dieu avec confiance, parce qu'il y a une raison pour laquelle toutes ces choses-là nous appartiennent, parce qu'il veut en assumer la responsabilité dans le but de nous bénir. C'est vraiment ça. Donc, oui, tout appartient à Dieu. Ce n'est pas une question facile à gérer dans notre vie. Chacun d'entre nous, on a à prendre une décision par rapport à ça. Ce n'est pas une décision que je peux vous forcer dedans. Ce n'est pas une décision que personne d'autre doit nous forcer parce que c'est une question de cœur, réellement. Quand nous disons « c'est à moi », avez-vous remarqué, c'est pour dire que c'est pas à toi. Mais moi, je crois que quand Dieu dit « c'est à moi », c'est pour dire « je veux te bénir en le confiant, en te le confiant ». Je crois que c'est réellement ça la différence qu'on n'a pas compris. Quand je dis « c'est à moi », ça veut dire « c'est pas à toi ». Mais quand Dieu dit « c'est à moi », c'est parce que je veux te le confier pour pouvoir te bénir et pouvoir que tu puisses le développer. Et donc, la première notion ou la notion la plus importante à comprendre dans notre vie entière, pas seulement dans nos finances, dans tous les aspects de notre vie, c'est que nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes intendants. Gestionnaire, mais ici j'ai choisi le mot intendant. Parce qu'un intendant, c'est quelqu'un qui gère les possessions, les biens, les investissements de quelqu'un d'autre. Donc, nous sommes intendants des ressources qui nous sont confiées par un Dieu aimant et généreux. Dieu dit, c'est à moi parce que je veux te les confier. Et pour avancer dans notre marche avec Dieu, on doit régler ce litige définitivement dans notre cœur. Ce droit d'appartenance. Est-ce que je considère que j'appartiens à Dieu? Est-ce que je considère que tout ce que j'ai lui appartient? Ou bien je considère, certains ont fait un certain pas, « Seigneur, je considère que la dîme t'appartient, mais tu me laisses tout le reste. » Oui, c'est une manière de voir, mais qui est peut-être moins efficace. Soyez rassurés d'une chose, comme je disais tantôt, je n'ai pas l'intention de faire le shérif, je n'ai pas l'intention de faire le Robin des Bois, de voler aux uns pour donner aux autres. Plusieurs ont été abusés spirituellement à travers différents moyens pour que nous puissions donner, investir de toutes sortes de manières. Dieu veut ton cœur, puis il veut que tu places ta confiance en lui. Et on a besoin de passer par-dessus toutes sortes de mauvaises interprétations de cette notion-là que j'appartiens à Dieu et qui ont voulu en profiter pour leurs œuvres, pour eux-mêmes, leur ministère, et qu'importe. On a besoin d'être assez responsable et de dire, « Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne peux pas te coller cette étiquette-là, je la mets de côté. » Et Dieu veut ton cœur, parce que Dieu veut nous parler cœur à cœur. Et c'est vraiment étonnant parce que, ah, si j'étais Dieu, je ferais une meilleure publicité. Mais j'ai remarqué que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il fait très attention pour ne pas nous influencer et pour qu'on puisse, de nous-mêmes, volontairement, répondre à son invitation. Il ne va rien faire pour qu'on arrive et on se dise, « Ah! » Mais c'est l'évidence! Je ne peux pas dire autrement, t'es Dieu! Pour quelqu'un de non-croyant. Et je parlais justement hier soir, j'ai croisé au concert de Cristal, ce fameux monsieur qui, à l'époque, en voulait contre tous les chrétiens et me regardait par la vitrine de son commerce lorsque j'arrivais, j'étais pas au courant, à un arrêt important et il s'est dit, « Ah, je vais voir s'il fait son stop. » Et j'avais fait mon stop. Et il m'a raconté ça 15 ans plus tard. Et quand il m'a raconté ça, je me souviens, je n'étais pas au courant de rien. Je l'ai-tu fait? Je ne le savais pas moi-même, je ne me souvenais pas. Et il m'avait dit, ce jour-là, j'ai pu faire un crochet dans mon livre. Ah, une récrimination de moins devant les chrétiens. Même quand personne ne les regarde, ils sont capables de fonctionner selon les valeurs qu'ils ont dans leur vie. Et ils ne font pas les choses seulement quand les gens les regardent. Oh! C'est spécial. On est propriétaire. Et à quelque part, Dieu nous invite, mais il nous laisse toujours le dernier mot. Sauf qu'il y a des conséquences variables selon notre réponse à Dieu dans notre vie. Vous savez, il y a un terme dans l'Ancien Testament pour décrire le fait d'avoir autre chose que Dieu en premier dans notre vie. Et le terme, c'est idolâtrie. Et Dieu nous veut en premier... veut être en premier dans notre vie, il veut notre cœur entier, il ne veut pas un cœur partagé, il veut qu'on puisse vraiment lui faire confiance, et ça, c'est jusqu'au bout, ce n'est pas à la moitié. Vous savez, ce n'est pas simplement un problème de l'Ancien Testament, l'idolâtrie, l'apôtre Jean a terminé sa première lettre, 1 Jean 1, 2, 3, 4, 5, 1 Jean 5, 21, le dernier verset de sa lettre, la première lettre qu'il a écrite, voici comment il la termine. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Amen. Je trouve ça spécial, intéressant. Gardez-vous des idoles, gardez votre cœur contre tout ce qui pourrait s'immiscer entre vous et Dieu, contre toute autre chose que vous pourriez considérer plus important que Dieu. Alors, ça nous amène à une autre question. Si je suis intendant, quel genre d'intendant suis-je? Ça, c'est une question qu'on doit répondre, qu'on va essayer ce matin de voir un peu plus clair. Si je suis un intendant, quel genre d'intendant est-ce que je suis? Et ça nous amène, on a besoin de comprendre l'intendance. Et je crois que pour Dieu, l'intendance consiste à être administrateur, un administrateur avisé, prudent et habile de toutes les ressources que Dieu a mises entre nos mains. Toutes ces ressources que Dieu a mises entre nos mains, on a la responsabilité de les administrer d'une manière avisée, prudente et habile, sage, si je pourrais dire. Quel est le serviteur sage? C'est une expression de Jésus. Et vous savez, ces ressources-là, ça peut être nos enfants, nos époux, épouses, nos biens, notre corps, nos capacités, notre vie, en réalité. Et vous savez, la puissance surnaturelle est là pour nous fournir l'aide miraculeuse pour devenir un intendant avisé. Devenir un intendant avisé, c'est à la portée de tout le monde. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de placer Dieu en premier dans tous les aspects de notre vie? Ou bien pourquoi c'est difficile de, je dirais, c'est une bataille de gérer notre argent avec une main ouverte et non une main fermée? Ou pourquoi est-ce qu'on résiste aux instructions de Dieu pour notre bien à propos des dîmes, des offrandes, de la générosité ou même de nos décisions de dépenses? Souvent, c'est la crainte. Un des points, la crainte. Et pour vaincre cette crainte-là, bien, on a besoin de changer de mentalité. On a besoin de changer de mentalité. Si vous me permettez, je vais boire un peu. Lorsque vous cédez le droit de propriété de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous possédez, vous vous réalignez avec la réalité spirituelle du royaume de Dieu. Tout à coup, on prend à nouveau en compte la réalité spirituelle du royaume de Dieu et la réalité spirituelle de l'éternité. On entre l'éternité à nouveau dans l'équation, si je peux dire. Et vous savez ce qui va se passer si vraiment on cède nos droits de propriété à Dieu? Ta vie de prière, ton sens de sa présence, ta passion pour l'adoration vont être toujours renforcés. Parce que tu viens de céder un territoire que tu contestais à Dieu et tu viens de lui redonner. Ce qu'on appelle, et ce que beaucoup de gens n'aiment pas, la soumission. Seigneur, je déclare que sans toi, je suis foutu. Je déclare, je comprends, je reçois cette vérité-là. Seigneur, t'es tout. Tu m'aimes vraiment et je décide de te faire confiance. Je décide de prendre pour acquis que c'est toi le propriétaire et je décide de te consulter et de garder à l'esprit cette vérité-là. Et lorsque vous retournez à Dieu ce qui lui appartient déjà, bien, vous renforcez cette conviction au fond de vous-même que Dieu a la puissance d'agir dans votre vie. Et votre foi s'épanouit. Tout ça, c'est un tout, ça vient ensemble. Et ça, je dirais, c'est la base pour devenir un bon intendant. Et je crois que c'est ce que vous voulez être, un bon intendant. Parce que, j'ai une vérité à vous dire, elle est dure, mais elle est réelle. C'est que Dieu ne peut pas bénir un mauvais économe ou un mauvais intendant ou une mauvaise intendante. Parce que sa bonté, son amour l'empêche. Parce que ses bénédictions sur un pauvre intendant vont le détruire puis vont infliger des dommages à tous ceux qui sont proches de lui, autour de lui, à ses bien-aimés. Et fouiller sur Internet dans les différentes revues qui ont écrit éventuellement des reportages sur les gagnants de l'auto de multimillions, etc. Et ce que vous entendez comme témoignage, ceux qui ont gagné des millions, certains ont dit « ça détruit ma vie, ça détruit ma famille » et certains ont appelé le fait qu'ils ont gagné à la loto une malédiction. Même des Québécois, j'ai lu des témoignages et pour plusieurs, ils ont reçu une somme importante d'argent alors qu'ils n'étaient pas encore prêts à la gérer comme des intendants sages, avisés, réfléchis. Donc, effectivement, la bonté de Dieu va l'empêcher de nous confier quelque chose qui va nous détruire. Dieu ne veut pas nous détruire. Jésus l'a dit clairement, il est venu pour nous sauver. Et il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on ait la vie en abondance. Alors, à quelque part, il y a-t-il un conflit? Seigneur, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et tu ne me donnes pas plus parce que peut-être à quelque part, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à bien gérer ce que tu me confies. Ça peut sembler dur, mais c'est en réalité la bonté de Dieu en action ce matin. Donc, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu me comble de ressources si je ne démontre pas que je sais gérer celle qui m'a déjà confié. Vous pouvez dire amen, mais vous pouvez dire aïe aïe. Vous n'êtes pas obligé de dire amen. Parce que c'est une vérité qui est dure à prendre, mais qu'on doit accepter parce que si on ne passe pas par-dessus cette vérité-là, si cette vérité-là ne nous fait pas changer notre manière de voir les choses, ben on va rester sur place, à quelque part dans notre vie. Parce que l'intendant sage de son côté, ben il va trouver toute la puissance, les ressources du ciel déployées pour l'aider et multiplier sa bénédiction. Jésus a déclaré, quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable? Dans un passage du Nouveau Testament, ça parle sur ses employés, dans un autre, sur ses biens. Et ce qu'on comprend là-dedans, c'est Jésus dit, je cherche un intendant fidèle et prudent parce que je veux lui confier des choses. Je veux lui confier des responsabilités. Je veux l'établir dans quelque chose de plus. Et c'est ce que Jésus désire faire. J'ai travaillé 15 ans en Afrique. J'ai fait la connaissance de beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de commerçants, des dirigeants de grandes entreprises. J'ai eu à en croiser beaucoup. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué. Qu'importe leur affiliation, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées, j'ai remarqué un fil conducteur dans chacun de ces grands hommes d'affaires, des gestionnaires qui savent gérer et qui savent mettre en place les bonnes structures pour la réussite. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pour chacun d'entre eux, pour la grande majorité, le poste sensible, les postes les plus sensibles, devinez lesquels? La gestion de l'argent, ils les confiaient à des chrétiens. Les athées confiaient ce poste-là à des chrétiens. Les musulmans confiaient ce poste-là à des chrétiens. Les chrétiens, bien, si on comprend. C'est normal. Mais même les autres. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ça, c'est un poste sensible. Et ça, il y a seulement le chrétien qui peut aller chercher la force, les ressources nécessaires pour être un intendant fidèle, juste, honnête, intègre. Ils le savaient. Donc, si les non-croyants, même les gens de d'autres religions nous regardent et disent, eux là, ils ont ce qu'il faut dans leur relation avec Dieu pour être de bons intendants. Alors, il n'y a personne qui peut se plaindre de dire, moi, Dieu ne m'a pas donné cette capacité-là. Non, non, ça demande d'être intentionnel, ça demande un effort, mais ça demande de comprendre. Je ne suis pas propriétaire, je suis intendant. Alors, si je suis intendant, Seigneur, il y a beaucoup de sagesse de ton côté que tu peux me communiquer et je vais aller chercher cette sagesse-là. Dieu recherche un intendant fidèle afin de lui confier plus de ressources. Jésus en a parlé avec beaucoup de détails dans la parabole qu'on va voir tout de suite. Mais je voulais juste vous rappeler quelque chose. Je me souviens, lorsque j'étais en particulier au Sénégal, j'ai pu construire 15 bâtiments d'église. D'église. Il ne faut pas que je me trompe. 15 bâtiments d'église, de rien, on arrive à un endroit, on creuse, fondation, etc., clé en main. Et sur 15 bâtiments d'église, il y en a seulement 3 où moi j'ai lutté, travaillé dur pour trouver les fonds pour les construire. Et les 12, je les ai construits avec l'argent des autres. De d'autres, pas de ma mission, pas de nos églises, pas des églises qui nous soutiennent, des autres. Parce que, bon, je suis un gars manuel, donc j'étais constamment dans des projets de construction. Et puis, au point où ça arrivait en fin d'année, des missionnaires qui m'appellent Gaétan. J'ai tel montant dans mon compte, j'ai pas de projet. Je veux vraiment bénir avec ce montant-là, sinon je le perds. En aurais-tu besoin? Toujours. Oui, et il y a des missionnaires qui me disaient, je t'envoie ces fonds-là parce que je veux que ça serve à construire une église à quelque part pour qu'il y ait des gens qui célèbrent Dieu et des gens qui viennent à la connaissance de Dieu. Et j'ai pu en construire 12 parce que les gens me regardaient et me jugeaient fidèle dans ce domaine-là. Si on veut une église construite, allons voir Gaétan. Et à quelque part, Dieu cherche un intendant fidèle afin de lui confier plus de ressources. Et je me suis vraiment considéré béni. De ces 12-là, plusieurs ont été avec l'école Dakar Academy, qui était une école pour tous les enfants missionnaires de l'Ouest africain. Des missionnaires qui étaient déployés. Et même à ce niveau-là, il y a eu éventuellement une jalousie des autres. Parce que quelqu'un s'est levé et a dit, « Comment ça, c'est toujours Gaétan? Comment ça, c'est toujours les projets de Gaétan qu'on va soutenir, qu'on investit et qu'on soutient financièrement? » Et je me souviens, le responsable, c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, même de la Côte d'Ivoire, Il disait simplement, ben, à chaque année, on vous propose à tout le monde, avez-vous un projet que vous aimeriez dans lequel qu'on investisse et qu'on vous aide? Mais Gaëtan, il y en a toujours. Alors, je vous demande à tous, vous n'en avez pas, je me tourne vers Gaëtan, as-tu un projet? Il me répond, j'en ai trois, ou j'en ai cinq présentement sur le feu ou dans mon idée, voici les... Et ainsi de suite. Et à quelque part, Dieu cherche des intendants avisés qui disent, Seigneur, je viens de comprendre, je suis un intendant. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu veux accomplir? Et de travailler sagement pour développer les bons réflexes. Très tôt, dans mon mariage, j'ai compris que je n'avais pas de très grandes habiletés financières pour compter. J'ai le talent d'investir et de dépenser. Pas nécessairement de dépenser d'une manière négative, mais d'investir l'argent, savoir quoi faire avec l'argent. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Et rapidement, j'ai découvert que Jacinthe, c'était une grande qualité chez elle. Organisée, liste, etc. Tout est calculé. Et j'ai compris très rapidement que si je voulais que notre couple s'épanouisse, il fallait que je donne que chacun ait le bon rôle à ce niveau-là. Et Jacinthe est ma comptable experte. N'allez pas la voir, ne la surchargez pas. C'est à moi. Elle est à moi. Et à quelque part, Dieu désire développer. J'ai quand même, je me suis énormément amélioré dans plusieurs aspects. J'ai appris à développer des routines pour devenir justement un meilleur gestionnaire. Et je considère que je suis un bon gestionnaire, malgré tout. Malgré que je parle de cette manière-là de moi-même. On continue. Jésus a donné une parabole pour nous parler que la gestion était quelque chose d'important. Et c'est sa parabole la plus détaillée. Dans Matthieu 25. On va la lire en rafale parce que je veux pas être trop long. Je veux qu'on regarde les principes qui sont vraiment importants. Qui seront les principes qui, si on les applique dans notre vie et on les comprend, on va devenir des gestionnaires sages, avisés, auxquels Dieu va pouvoir confier plus dans tous les aspects. Alors, on commence. Matthieu 25, à partir de le premier verset, je l'ai pris parce que c'est la deuxième parabole du chapitre. Et ce verset-là s'applique. Alors, le royaume des cieux ressemble à... Et on parle au début, je crois que c'était les... En tout cas, je ne vais pas me mélanger. Alors, le royaume des cieux ressemble à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Ici, nous lisons dans la seconde 21, qui est une version plus moderne. C'est pour ça qu'on parle de sacs d'argent au lieu de 5 talents, 2 et 1 talent. Je vous dirai tantôt c'est quoi la valeur de ces talents-là, par contre. Donc, vous allez comprendre à quoi ressemblent ces sacs d'argent. On continue. Donc, celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. L'argent de son maître. Point à retenir. On continue. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Oui, on aura des comptes à rendre. On continue. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres. La réponse de son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Oh, j'ai vu que tu as été fidèle en peu de choses, alors je désire te confier beaucoup. Intéressant. Viens partager la joie de ton maître. On continue. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha et dit, « En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Ensuite, celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent, donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. » Et on continue. « En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. » Ouch. Et ça, c'est la conclusion de la parabole, ici, dans la version du maître Sassi, une version de 1759, c'est pas récent, ça dit « On lui ôtera même ce qu'il semble avoir. » Et il y a d'autres versions qui vont dans ce sens. Dans la parole vivante, ça dit « Mais à celui qui n'a pas ce qu'il devrait avoir. » Et dans les notes de la version Passion, l'explication qu'on retrouve, c'est « Celui qui a un cœur d'intendant fidèle aura plus à gérer. Celui qui a très peu de fidélité, de sagesse, d'intégrité, perdra le peu qu'il n'a pas réussi à bien gérer. » Et c'est vraiment intéressant de voir cette parabole-là qui est très détaillée. On voit les attitudes, on voit plusieurs aspects importants. Et je vais surtout regarder qu'est-ce qu'on doit retenir de cette parabole-là. Il y a des principes vraiment importants qu'on doit retenir dans cette parabole-là. L'argent n'était pas un don, n'était pas un prêt. C'était pas un bonus. Youpi, je peux faire ce que je veux avec. C'est un premier principe. Ce n'était pas un don ni un prêt. L'argent est demeuré la propriété du maître, même si ça a pris longtemps avant d'avoir des comptes. L'argent est demeuré la propriété du maître. L'argent n'a pas changé de propriété, n'est pas devenu la propriété. À la compréhension des serviteurs, cet argent-là leur avait été confié par le maître. Ensuite, le but était l'accroissement. On voit clairement à travers les trois exemples que le but du maître, le maître était heureux de voir l'accroissement, de voir que ça fructifiait, que ça multipliait. Ensuite, on voit que chacun a reçu selon ses capacités. Ce qui veut dire, celui qui a reçu un talent, toutes ses excuses n'étaient pas valables. C'est ce que ça sous-entend, donc. Le temps n'a pas effacé la responsabilité, le temps n'a pas altéré la responsabilité. Ah, j'ai du temps devant moi. Ah, quand je deviendrai riche, je servirai le Seigneur. Ah, quand je gagnerai à la loto, je vais servir le Seigneur. Ah, quand j'aurai un meilleur emploi, je paierai ma dîme. Ah, quand... Ça me fait penser, l'homme qui est allé se plaindre à son pasteur, ça n'a pas d'allure, je n'ai plus les moyens de payer ma dîme, c'est trop élevé. Et le pasteur réfléchit, il dit, ah, j'ai une idée. Si tu viens de ton premier emploi, tu as juste à retourner à ton premier emploi, ça va te faire beaucoup moins de dîmes à payer. Honnêtement, j'ai entendu quelqu'un de dire « La vie est tellement chère que je n'aurai plus les moyens un jour de payer ma dîme. » Ce n'est pas nécessairement la bonne réaction. Là, on oublie qu'on est intendant et on oublie qu'on est l'intendant d'un Dieu généreux qui désire nous bénir et qui désire nous confier plus. Le désir de Dieu, pour toi, c'est de te confier plus. Mais sa bonté va peut-être l'empêcher parce qu'il ne veut pas te détruire. On voit dans cette parabole-là un point que je ne vais pas mentionner, mais on voit que chacun a reçu selon ses capacités, ce qui veut dire, ce n'est pas l'appel de tous d'être millionnaire, multimillionnaire ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessairement un but à rechercher. Le meilleur but à rechercher, c'est d'être un bon intendant. C'est ce qui produit la multiplication. Et non de dire, je vais courir après le premier million, puis le deuxième sera plus facile, et là, je servirai le Seigneur. Je ne crois pas que ça, c'est nécessairement la bonne approche. Un autre point, il y a un compte rendu qui a été demandé. Donc, le temps n'a pas effacé la responsabilité, il ne l'a pas altéré du tout. Et ils n'ont pas dit, ah ben mon maître doit avoir oublié. Donc, je suis correct de faire ce que je veux. Et le dernier point, la fidélité a été récompensée. 7 points, wow! C'est le chiffre de Dieu. 7 points qui sont vraiment importants. Ce n'était pas un prêt. Ou plutôt, ce n'était pas un don. C'était un montant qui était confié, ni un prêt. L'argent était la propriété du maître, le but était l'accroissement. Chacun avait la capacité d'accomplir le désir du maître. Et le temps n'a pas changé du tout la responsabilité. Il y avait des comptes à rendre un jour pour la manière dont ils ont géré ce qui leur a été confié. Et le but était de récompenser. La fidélité a été récompensée. Donc, ces trois serviteurs, je vais juste ramener quelques notions importantes. Dans cette histoire-là que Jésus raconte, et si c'est une histoire qui est rattachée à notre réalité terrestre, Ce maître, cet homme-là, qui avait une certaine richesse, vous allez voir, a regardé parmi ses serviteurs et il s'est dit, je pars pour un long voyage, je ne peux pas peut-être m'occuper à distance du bien-être de mes économies, de mes finances, je vais le confier. Quels sont les serviteurs à qui je pourrais le confier? Ce maître se serait certainement posé la question et il a observé comment ses serviteurs étaient dans ce qui leur était confié auparavant. Il observe, il dit, oh wow, lui, je lui ai confié telle chose. As-tu vu de quelle manière il l'a fait fructifier? Oui, ça c'est un crochet à côté. Et il a observé, et la façon dont les serviteurs avaient géré dans le passé a amené le maître à leur faire confiance, à leur aptitude pour en gérer davantage. C'est fort probable, c'est la logique en réalité. Et je crois que le maître a pensé de cette manière-là parce que un talent, donc il a confié 5 talents, 2 talents, 1 talent. Un talent, c'était 10 000 deniers. Et si on se fie à une autre parabole, un denier, c'était le salaire d'une journée d'un ouvrier. Puisqu'on le voit dans une autre parabole. Et c'était donc la monnaie courante de l'époque. Donc, un talent valait 10 000 deniers, donc valait 10 000 journées de travail. Et si on calcule, supposons qu'on calcule une journée, une semaine de 6 jours de travail, parce qu'à l'époque, on se reposait le sabbat, et puis une semaine où il n'y avait peut-être pas de vacances, ça aurait quand même pris pour un talent 32 années de travail, une vie de travail, pratiquement. Pour chaque talent, on en a confié 5 à l'un. Donc, c'était une somme conséquente. C'était pas juste « je te prête mon argent de poche, fais-la fructifier ». C'était beaucoup plus que ça. Ça demandait une responsabilité et le maître avait probablement réfléchi pour dire « quels sont les serviteurs qui sauront gérer cela parce qu'ils ont déjà démontré leur sérieux dans ce qu'ils avaient à faire ». Donc, ce qu'il faut retenir, il s'agissait de grosses sommes d'argent que le maître confiait à ses serviteurs. Parce que si on met en argent d'aujourd'hui, une vie de travail, ça vaut combien? 1 à 2 millions, quelques millions, ça dépend de la classe sociale des gens. Et là, on en a confié donc 5 comme ça. On confie, supposons, 5 millions à l'un, 2 millions à l'autre et 1 million au troisième. Hey, wow, aimerais-tu qu'on te confie 5 millions? De dire, fais fructifier ça, puis tu vas être récompensé. Moi, ça me rendrait un peu nerveux de dire, oh, wow, hey, là, je vais aller étudier la chose. Je dois comprendre le système financier. Je dois comprendre comment on fait fructifier l'argent. Je vais devoir me mettre au travail. Littéralement, c'est ce qui est arrivé. Donc, Jésus enseigne une parabole, mais qui est très, très, très puissante. En réalité, c'est sérieux ce qu'il est en train d'annoncer, en train d'expliquer. Donc, voici les principes bibliques pour devenir un gestionnaire plus sage. Les 7 principes qu'on vient de voir ici, je crois que ce sont des principes vraiment importants. Et à mesure qu'on devient ce gestionnaire sage, Dieu désire nous confier plus. Et qui veut plus? Vous avez le droit, les autres vous mentez. Vous avez tous le droit d'élever la main. non, désolé. Je traite personne de menteur, mais c'est un désir légitime. On doit vouloir plus. Et pas seulement financièrement, mais globalement, si on veut connaître plus de Dieu, c'est qu'on doit désirer plus de sa part, qu'il se révèle et de découvrir qui il est, etc. On doit désirer plus. Donc, vous savez, quand tout va être dit, en réalité, vous êtes déjà des gestionnaires. On est déjà des intendants. Dieu nous a déjà confié des choses. Donc, peut-être tu disais en toi, ah, ben moi, je ne veux pas devenir un intendant de Dieu. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé, ce n'est pas une option. Dieu nous a tous déjà confié une trousse de départ. Tu es intendant. Tu es encore aux études? Et s'il y avait des enfants ici, je pourrais dire la même chose à chacun des enfants. Tu es déjà intendant. Dieu t'a déjà confié quelque chose. Dieu t'a déjà confié ton corps, ton âme, tes capacités. Dieu t'a confié chacun des jours de ta vie. On a ce passage-là dans les psaumes. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Donc, c'est comme un bien important à gérer. On porte son image, réalisez-vous. Il nous a confié la tâche de le représenter. Ah! Wow! Nous sommes créés à l'image de Dieu. Je me souviens quand j'étais en Afrique, dans les différents pays, dans tous les différents projets de construction. Quelquefois, je mettais mon pied à terre, je disais « Non, ça, je ne peux pas le permettre, je ne mettrai pas mon nom sur ce bâtiment-là si tu agis comme ça. » Moi, j'aurais honte de dire « C'est moi qui ai construit ce bâtiment-là. Tu vas me redresser ça, c'est croche. C'est inacceptable. » Et j'avais l'habitude de dire « Si je veux que mon nom soit sur ce bâtiment-là, ben il faut que ce soit bien fait. » Parce que c'est ce que j'aime faire, que de faire les choses de la bonne manière. Et Dieu nous a confié la responsabilité de le représenter. Hey, c'est quelque chose. Et ensuite, nos biens, nos relations, etc. Donc, réalisez-vous, quand tout sera dit, quand on rendra des comptes sur la façon dont on a vécu notre vie, Il ne s'agira pas d'argent. L'argent ne sera pas probablement le premier item, même si on relie ça ici présentement à l'argent, mais ce sera à propos des vies touchées, des vies transformées, parce qu'elles auront trouvé le Seigneur à travers nous. C'est réellement ça qui est le plus important lorsqu'on va arriver dans sa présence. Mais pourtant, l'argent est important, parce que l'intendant qui néglige tout ce que Dieu lui a confié ne va pas apporter d'accroissement au royaume du Seigneur ou de son Seigneur. On ne peut pas être généreux avec notre Église, avec les autres qui sont dans le besoin, si nous sommes noyés sous les dettes ou si nous vivons de paye en paye. Si jamais une paye retarde, oups, on est dans les problèmes. On a appris à vivre, à ne pas vivre de paye en paye lorsque les assemblées de Pentecôte vivaient une situation très difficile, en 96 à peu près, où la paye était de plus en plus retardée jusqu'à elle rentrer le mois suivant pour le mois précédent. Et là, on nous a annoncé, OK, on doit faire un redressement, donc on saute une paye. C'est peut-être facile quand on est au Canada, on se dit, OK, on a des frères, des sœurs, des parents, des ressources, OK, comment on va s'organiser? Et lorsqu'on est ailleurs en Afrique ou qu'on dépend pas nécessairement des gens proches de nous, on n'a pas ce réseau social, on a dit, OK, on doit être vraiment des intendants sages pour passer à travers ces situations-là. Mais c'est merveilleux, les assemblées de la Pentecôte, lorsque quelques années plus tard, ont redressé ces situations-là, nous ont retourné cette paye qui n'était pas payée. Ils n'ont pas été injustes, mais on a dû apprendre à être sages lorsque les revenus qu'on attendait ne sont pas là. Donc, on ne peut pas être généreux. Si on est endetté, c'est beaucoup plus difficile. Donc, tout comme une mauvaise gestion de notre temps, ça va être la même chose. Là, je parle d'argent, mais de la même manière, une mauvaise gestion de notre temps, une mauvaise gestion de nos dons, de nos relations, va limiter notre impact, nous aussi, notre influence pour le royaume de Dieu. De la même manière. Donc, on doit apprendre réellement à nous confier en Dieu. Et j'ai un passage de l'Ancien Testament. J'aime quelquefois aller chercher des passages de l'Ancien Testament parce que malgré que Dieu a apporté la loi parce que le peuple ne voulait pas la relation, voulait plutôt les règles, on voit à travers ça le cœur de Dieu. On voit à travers ça l'intention de Dieu. Et ici, dans Deutéronome, le livre de Deutéronome, ce sont les dernières revisions avant d'entrer dans le pays promis. Ils sont devant le pays promis, et Moïse dit, OK, oh, un instant, en traversant ce fleuve, votre vie va changer. Ils avaient vécu une vie de routine de 40 années de manne, où Dieu prenait soin d'eux, où il n'y avait pas besoin d'aller au marché pour faire l'épicerie, il n'y avait pas besoin de changer de chaussures, de vêtements. Dieu a fait que rien ne s'usait. Je sais pas comment il l'a fait, mais il l'a fait. Une vie de routine où tous nos besoins, on prend soin de nos besoins. Et là, Moïse dit, okay, écoutez, là vous allez traverser et vous allez entrer dans la bénédiction. Et Moïse dit, j'aimerais vous rappeler comment gérer la bénédiction. Et il y a toute une révision dans Deutéronome, avant d'entrer dans le pays promis, qui est fait. Rappelez-vous. Et ici, dans Deutéronome 8, 17, fais bien attention de ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force, c'est la puissance de mes mains qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. Moïse était en train de rappeler l'alliance et de reconfirmer cette alliance entre Dieu et les hommes, et le peuple d'Israël, avant même d'entrer dans les combats, dans les temps difficiles, mais aussi dans la bénédiction, dans la prospérité. Et on voit, c'est vraiment intéressant. Rappelle-toi, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, qui va te donner la force pour les acquérir. Mais pourquoi il le fait? Pour confirmer son alliance, pour confirmer qu'il est bon, qu'il est généreux, et que c'est en lui qu'on doit placer notre confiance, ni dans notre compte en banque, ni dans notre bien-être, ni dans nos capacités. Une dernière question en terminant. Pourquoi le serviteur ayant reçu un talent a-t-il échoué? Parce qu'on a le même risque. Pourquoi est-ce qu'il a échoué? Je dirais qu'une vision erronée de Dieu va nous amener invariablement à une approche erronée de la gestion des choses qu'il nous a confiées, des ressources qu'il nous a confiées. Et je crois que ce serviteur-là, ce qu'il a fait, il a supposé que son maître était dur, exigeant, injuste, indifférent. La vision que ce serviteur avait de son maître, qu'il était exigeant, indifférent, dur, son maître lui a confié selon ses capacités. Donc, ce n'était pas des excuses qui étaient valables. Et pour beaucoup de croyants, je vais inviter tout de suite le groupe musical à s'avancer, parce que je veux qu'on puisse chanter un chant qu'on chantait il y a très longtemps. Donc, Nicolas, tu vas passer le mot à Isabelle. Super. J'aimerais qu'on puisse terminer en prenant un temps dans la présence de Dieu, en terminant tout de suite. Pour beaucoup de croyants, l'incapacité de gérer l'argent et les biens matériels, comme des intendants plutôt que des propriétaires, c'est un manque de confiance en Dieu. Ça dénote un manque de confiance en Dieu lorsque j'ai l'attitude du propriétaire et non de l'intendant. C'est qu'ils ne croient pas vraiment au plus profond d'eux-mêmes que Dieu est bon et qu'il a leur meilleur intérêt à cœur. C'est comme si, quelquefois, on croit qu'on va faire un meilleur travail pour défendre nos propres intérêts que le Créateur tout-puissant, omniscient, qui nous aime tellement. C'est une question de confiance, premièrement. Et la confiance veut dire prendre des risques. Lorsque le papa dit à son enfant, « Saute, je vais t'attraper », l'enfant qui ne croit pas va hésiter. L'enfant qui a confiance à son père va même sauter, des fois avant même que le père soit préparé, le père doit rapidement. Vous avez déjà peut-être vu ces situations-là où l'enfant est tellement confiant qu'il le fait. Il saute parce que son père lui a demandé de le faire. Et notre Père céleste veut la même chose. Il veut notre cœur. Il veut notre confiance. Il ne veut pas qu'on croie qu'on va faire un meilleur travail que lui en pensant qu'on est propriétaire de tout ce qu'il nous a confié. Ne faisons pas l'erreur de croire que Dieu est dur, exigeant, injuste ou bien indifférent. Et pour avoir un aperçu de qui est vraiment notre Père céleste, là on vient de voir une histoire de gestion financière, mais il y a une autre parabole que Jésus a racontée, celle du fils prodigue, qui est une autre question d'argent. Une autre parabole d'argent, mais surtout une parabole de restauration, une parabole d'intimité, une parabole de l'attitude. Et la parabole du fils prodigue, on devrait plutôt l'appeler la parabole du Père merveilleux. Parce que Jésus raconte cette parabole-là pour faire comprendre ce fils prodigue qui pensait, je vais gérer mon héritage moi-même, à ma manière. Je n'ai pas besoin d'intimité de mon Père. Et il s'est considéré propriétaire pour s'apercevoir que ce n'était pas la bonne approche. Et lorsqu'il a réalisé, il est entré en lui-même, il a dit, moi qui pensais que cette fortune-là allait faire mon bonheur, aujourd'hui, je mange avec les porcs. Ou plutôt, je nourris les porcs, puis je salive en les nourrissant. J'aimerais manger ce qu'ils mangent. C'est ce qu'il était en train de dire. Pendant que chez mon père, même les ouvriers mangent et vivent dans l'abondance. Tout à coup, il a compris que le meilleur plan était de retourner à son père. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un père qui donne à ses enfants la liberté de choisir d'être avec lui ou de partir. Un père qui attend le retour de ses enfants. Mais aussi un père qui court, qui serre ses enfants dans ses bras, puis qui les ramène dans la communion intime avec lui. Dieu n'est pas difficile. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Ça signifie exercer ta foi en lui. Fais-lui confiance avec tes finances, avec ta vie, parce qu'il est digne de confiance. Et ce matin, présentement, c'est l'occasion pour régler une fois pour toutes ce litige avec Dieu, ce droit de propriété dans ton cœur que tu n'as peut-être pas encore réglé. Et on va chanter un chant qu'on chantait déjà dans les années 70, dans les années 80. « Entre tes mains, j'abandonne. » Et je vous invite, dites-vous présentement, « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de me dire à travers ce message? » Saint-Esprit, qu'est-ce que ces paroles-là veulent dire pour moi? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de me dire ce matin? Réponds-y. Chante ce chant-là. Si vous voulez, venez en avant ceux qui le désirent. Réglons cette question de litige, pensant que tout ce qui est sur terre m'appartient simplement et je donnerai ce qui m'intéresse à Dieu, mais qu'on puisse gérer avec la sagesse de Dieu comme des intendants fidèles, sages et généreux. Levons-nous ensemble et je vais tout de suite te laisser, Isabelle, nous conduire dans ce chant-là. On doit l'avoir, vous pouvez... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à l'arrière pour la projection.